is the time to heal in America. Born in the
USA. Voici Raphaël Jacob.
There's a lot of work going on to examine this in real time to see if we might need a boost. But right now, given the data that the CDC and the FDA has, they don't feel that we need to tell people right now you need to be boosted.
Traduction, Raphaël?
Oui, ça, c'était le docteur Anthony Fauci qui disait que il y a de la pression présentement. Là, c'est une traduction libre, évidemment, là, pour autoriser ce qu'on appelle un booster, donc une troisième dose de vaccin, mais tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de données probantes suffisantes pour le gouvernement américain, on n'ira pas nécessairement de l'avant avec une autorisation d'une troisième dose.
Parce que c'est ça, il y en a question un peu partout. Là, tantôt, j'entendais des extraits du point de presse d'Emmanuel Macron en France, puis lui, il ouvrait une certaine porte à ça éventuellement. Ça va être à suivre.
Oui, mais ce qui est quand même assez comique là-dedans, c'est que, écoute, le commun des mortels commence à entendre parler de troisième dose. Là, on commence à en parler de plus en plus dans les médias, comme tu le dis, là, un petit peu partout dans le monde. Où c'est un petit peu comique, c'est que la réalité pour à peu près n'importe qui regardait ce qui se tramait sous la surface, c'est que c'était clair que ça s'en venait puis depuis longtemps. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que des géants comme Pfizer, comme Moderna, projettent eux-mêmes là, à l'interne depuis plusieurs mois que le virus va devenir autour de 2022 là, endémique. Donc, passerait d'épidémique à endémique. Traduction, le virus continue à circuler. Mais il le fait sans être, disons, aussi problématique que pendant les premiers mois de la crise. Sauf que ça, Marc-Claude, un virus qui est endémique, ça peut durer des années, ça peut durer à la limite des décennies.
Tout à fait. Mais remarque, on prend bien des vaccins pour la grippe à chaque année. Fait qu'est-ce que ça va devenir comme un deuxième vaccin pour la grippe? Qui sait?
Ben, c'est
j'en
surtout...
parle pour une autre grippe.
Oui, oui. Ben, la question, en fait, encore, je pense, beaucoup plus profonde, c'est est-ce que ça va devenir un troisième, un quatrième, un huitième, un douzième vaccin? Parce que dans certains cas, pour certaines personnes, ce que Pfizer dit essentiellement, c'est ben, peut-être qu'une première, une deuxième, à la limite, dans 6 mois, dans 8 mois, une troisième dose, c'est adéquat, mais ça pourrait être bon d'en avoir juste une de plus pour, en français, en bon français, booster votre protection. Ben, tu comprends le nom du jeu ici, c'est que si les autorités réglementaires américaines commencent à ouvrir la porte au concept de troisième dose, au concept de booster, ben, veux pas, ils ouvrent un petit peu aussi la porte, justement, à une quatrième, à une cinquième, puis à une huitième dose un petit peu plus tard. Puis oui, il y a des considérations sanitaires. Je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce qu'il faut nommer, puis c'est l'argent. C'est qu'il y a des considérations.
Dire, oui.
Ben, écoute, oui. Les considérations financières sont colossales. Puis, ces compagnies-là ont fait quelque chose, je pense, de miraculeux en développant un vaccin, en fait, des vaccins qui semblent aussi efficaces en si peu de temps. Mais en même temps, il faut aussi se le dire, là, ce sont à la base des multinationales qui ont un objectif premier, puis c'est faire de l'argent. Fait que, tu sais, imagine le potentiel de profit de pas avoir juste une campagne de vaccination unique, là, première, deuxième dose, mais que ça devienne récurrent sur des années. Il y a
ben,
ça.
Comme je te dis, éventuellement, si ça ressemble... Moi, j'ai parlé à des scientifiques il y a quelques mois qui me disaient justement que probablement qu'on aurait besoin d'un rappel pendant quelques années, là, tu sais. Est-ce que... Mais en même temps, j'ose espérer que la santé publique va, tu sais, comme analyser les faits, regarder scientifiquement ce qui se passe, les risques, etc., puis qu'on aura une réponse adéquate sur... Moi, troisième dose, si jamais ils nous font ça très, très vite, mais si jamais c'est un rappel au bout d'un an, ben là, ça, comme je te dis, ça devient comme un peu comme ceux qui prennent le vaccin pour la grippe, je présume.
Oui, et là, je pense qu'il y a bien des gens qui vont se croiser les doigts pour que la recommandation officielle qui est donnée par les autorités, justement, soit faite sur une base sanitaire et non pas justement sur une base financière.
Il ne faudrait pas.
Mais la pression va être énorme. Ouais. La pression va être énorme, Marc.
Et plus que ça, j'allais dire, il faudrait qu'on le sache. Parce que
exact.
Des fois, il y a tellement de tractations secrètes. Puis nous, le bon peuple, on ne sait pas trop ce qui se passe puis d'où ça vient, mais il ne faudrait effectivement pas que la recommandation vienne de convictions financières.
Ouais,
ça serait épouvantable.
Mais sais-tu quoi? Ce que tu viens de souligner, c'est hyper pertinent dans le contexte de ce dont on se parle aujourd'hui. Parce que pourquoi est-ce qu'on se parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a une rencontre entre, d'un côté, des représentants de Pfizer et, de l'autre côté, certains des plus hauts placés du gouvernement américain en matière de lutte à la pandémie. Et cette rencontre-là, où est-ce qu'elle a lieu? En privé. Qu'est-ce que Pfizer a dit qu'elle allait faire? Qu'elle allait présenter des données qui, selon eux, justifient qu'on octroie le permis là, ou une autorisation pour une troisième dose, mais veut, pour l'instant, en tout cas, là, présenter seulement ces données-là en privé. Fait que Écoute, il y a peut-être des raisons parfaitement justifiables pour ça, mais d'un point de vue ne serait-ce que de perception publique, surtout, Marie-Claude, aux États-Unis, dans un contexte où, on le sait, il y a une grosse couche de la population qui a énormément de méfiance à la base par rapport à la vaccination. Et je suis pas sûr que d'un point de vue de perception, ça vient aider ça. Il y a ça aussi, puis excuse-moi, très rapidement, parce que je veux vraiment pas qu'on oublie d'en parler, la question des inégalités dans le monde par rapport à la vaccination. Parce que même si il y a des bonnes raisons à la limite là, pour autoriser une troisième dose, c'est quand même un peu hallucinant qu'on soit en train de parler de troisième dose aux États-Unis quand il y a des pays dans le monde... Qui en ont même pas.
C'est même pas commencé.
Exact. Ou si ça a commencé, c'est des peanuts. Là, tu prends, je regardais ça juste avant qu'on entre en onde ensemble. Tu prends un pays comme le Bangladesh, c'est 160 millions de personnes. T'as même pas 5% de la population qui a reçu une dose. Pas deux, pas trois, là, une.
Et c'est d'une injustice. Tu parlais d'inégalité. Moi, je vais carrément au mot injustice. C'est profond. Ça fait mal au cœur. Et le pire, ben, c'est que tant que cette injustice-là perdure, ben, la pandémie va perdurer. Puis, on va recommencer à voyager, là. Et, ben, les gens vont voyager de partout sur la planète. Et puis, ben, peut-être, comme tu dis, ça sera peut-être pas juste la troisième dose. Ça va être des doses tout le temps parce qu'on n'en sortira pas.
C'est ça.
Bon. Écoute, il nous reste à peu près 3 minutes pour parler des États-Unis qui sont appelés à répondre à 2 crises dans le même coin du monde, c'est-à-dire Cuba et Haïti. Cuba, d'abord, je dois te dire, j'ai été complètement sidéré de voir ces manifestations en monstre. Ouais. Tu sais, comme il n'y a pas si longtemps, ça n'aurait pas passé.
Non, effectivement. Tu sais, je pense qu'on a encore le réflexe de parler du régime Castro. Là. Techniquement, ça ne l'est plus, mais on s'entend que c'est essentiellement le même régime. Et tu as raison. Les manifestations, je pense, ont pris beaucoup de personnes, un petit peu de cours, personne n'a vu venir. Et ce qui va être fascinant d'un point de vue américain, c'est comment on réagit à ça. Parce que les relations cubano-américaines sont assez complexes, pour le moins, depuis longtemps. En remontant à l'embargo qui avait été imposé par John F. Kennedy, il y a de ça à peu près 60 ans, surtout au courant des dernières années, on s'est un petit peu échangé la balle. C'est-à-dire que sous Barack Obama, on a commencé à desserrer l'embargo. Trump est arrivé, on a commencé à le resserrer. Là, Biden arrivait, promettait à son tour de desserrer l'étau. Mais là, ça, on s'entend, ça vient compliquer ça, parce qu'il va pas vouloir être vu aux États-Unis comme étant mou par rapport à ce régime-là. Fait que, écoute, ça va être fascinant. Pour ce qui est d'Haïti, autre dossier, même région du monde, autre chose qui est fascinante, c'est que là, on a des représentants du FBI, du département d'État américain, département de la justice américain, qui sont dépêchés sur place pour essayer d'aider les autorités haïtiennes à enquêter sur l'assassinat du président haïtien la semaine dernière. Mais ce sur quoi je vais te laisser, Marc-Claude, petite page d'histoire, là, souvent on dit que l'histoire c'est une ligne qui avance, mais des fois l'histoire est aussi cyclique, là, c'est un cercle. Il y a 100 ans, le président d'Haïti avait été assassiné. Puis les États-Unis avaient envoyé des Marines pour restaurer l'ordre et ils ont occupé le pays pendant longtemps. Oui. Puis les Américains ont tellement été impliqué dans la politique interne d'Haïti que le secrétaire adjoint de la Navy américaine, à l'époque, avait déclaré, et je le cite, « J'ai moi-même écrit la Constitution d'Haïti et si je peux me le permettre, je pense que c'est une pas mal bonne Constitution. » Fin de la citation.
Bon, on dirait Trump.
Ben, presque mieux que ça, Marie-Claude, le punch de l'histoire. Ça, là, c'était en 1920. Le secrétaire adjoint de la Navy en question là, s'appelait un certain Franklin Delano Roosevelt,
quand même.
Qui est plus tard devenu, évidemment, le président américain probablement le plus important des 150 dernières années.
Wow, incroyable. En tout cas, écoute, hâte de voir la suite de ce qui se passe là-bas en Haïti. C'est tellement, tellement décourageant. Ouais. Et tu as vu les dernières nouvelles aujourd'hui là, sur l'enquête et tout ça. Ouais. En plus, y a un lien avec la Floride. Fait que, écoute...
On s'en reparle.
Certain. Raphaël Jacob, un gros, gros merci. Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à demain.
À demain.
Quant à nous, on s'arrête pour une petite pause et Jérémy Rainville sera avec nous après pour nous parler d'Amateurs de sport, l'émission qui nous suit à 18h30.